Comment ça se fait que t'es pas à l'école?
Regarde-moi.
T'as séché?
Oui.
Tu sais lire au moins?
Pas tout.
Pas tout? Qu'est-ce que ça veut dire, pas tout? On sait lire ou on sait pas lire?
Tiens, tu vas me lire ça pour voir.
L'as-tu lu, mon petit loup?
Des livres pour enfants.
Dites donc, l'as-tu lu, mon petit loup? Ça a 30 ans.
Seuls les très grands écrivains ont écrit pour les enfants. Mais au fond, ils n'ont pas écrit pour les enfants. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Quand on atteint le sommet de l'écriture, eh bien, on écrit si bien que tout le monde peut vous lire, même les enfants.
Bonjour à tous et bienvenue pour ces 30 ans exceptionnels de L'As-tu lu, mon petit loup sur France Inter avec Léo Prangère et Élise Christophe à la technique aujourd'hui, assistée de Camille Blanès et Xavier Pessugia, oui, fidèle qui réalise cette émission. Alors, en préambule de ce trentenaire, on ne fêtera pas les 60 ans de L'As-tu lu, mon petit loup, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Premier point. Donc, une émission en un seul exemplaire, un crayonné d'enfance envoyé à travers les ondes ou sur le net. Alors, 30 ans, évidemment, vous me direz, c'est peu par rapport à un mandat de dictateur de 37 ans au Zimbabwe. Donc, il faut quand même relativiser. Et pour une émission de radio, ça peut peut-être sentir le soufre, surtout en cette période où triomphe l'obsolescence programmée. Mais, que penser d'un semeur de graines qui ne prendrait pas le temps de les voir germer, ou d'un Elzéar Bouffier, le planteur d'arbres des collines de Giono qui ne profiteraient ni des fruits, ni des ombrages de ces forêts renaissantes. En matière de culture, comme en agriculture, il faut donner du temps au temps. Et on ne peut jamais savoir dans quel terreau la graine de livres pour enfants, semée au hasard des vents et des ondes depuis 30 ans, est venue se nicher. Alors, les feuilles mortes, oui, se ramassent à la pelle, c'est la saison, mais tu vois, on n'a rien oublié avec Patrice Wolf. Non, tant de jolies, drôles, terrifiantes, heureuses histoires de dessins, couleurs offerts depuis 30 ans, aux oreilles, à l'imagination, aux doigts pleins de feutre, parce que maintenant il n'y a plus d'encre, aux yeux écarquillés de môme pour certains devenus parents aujourd'hui. Alors à tous ces petits loups qui n'ont jamais mangé leur grand-mère, bon, y a peut-être ça mériterait, on sait pas, entrez sous l'ombre fraîche des forêts de livres, soyez un poussin de Claude Ponty qui s'abrite dessous, le petit loup, oui, il a 30 ans, mais encore toutes ses dents, faut dire qu'il s'économise quand même à raison de 4 minutes 30 par semaine. Mais qu'est-ce que je vois là? Les trois brigands, un prince de mots tordus, Ernest et Célestine, Harry Potter, mais tu es là toi aussi, le petit prince, chien bleu, loulou, Mowgli, oh, poussette, pomelo, babar, petit ours brun. Ben vous êtes toutes là, tous là, c'est bien sympa. Et vous aussi, public du 621, merci à tous. Et ils sont tous... Voilà, ça merci mon bon Daniel Morin parce qu'en fait avec grand plaisir. D'abord je tiens à remercier, voilà, je remercie aussi Jean Garetto qui était le directeur en 1987, qui m'avait confié la matinale du week-end pendant 9 ans et qui m'a dit, bon alors Denis, écoute, moi j'ai pas d'enfant, voilà, ça bave, ça crie, etc. et tout ça, mais le titre il est bon. Voilà, là tu donnes. Alors, si ça marche, on le gardera. Ça marche pas, au bout de 3 mois, ça partira. Donc, merci à Jean Garetto. Merci aujourd'hui à Laurence Bloch, ma directrice, et Yann Chouquet, notre directeur des programmes, parce qu'il nous cède exceptionnellement la place de Daniel Morin, qui est là, bien présent, et donc la rediffusion de Nagui. Alors, Daniel va être là, parce qu'il va passer parmi vous, non pas pour prendre du fric, hein, je crois pas que ce soit ça, Daniel.
Accessoirement, si vous avez un petit billet.
C'est ça. Non, mais ça va être pour récolter un peu votre parole, et à la fin de cette émission, eh bien, il va nous faire un compte à sa manière.
Donc avec on tous peut les craindre... ingrédients qui m'auraient été donnés.
C'est ça. Donc on peut craindre le meilleur, le pire, on ne sait pas. Un homme que vous connaissez, c'est Daniel Pénac, le papa des Camos et des Malocènes, et qui a toujours mêlé ces deux écritures.
Vous fêtez quoi, le 30e anniversaire de la Tulip Petit Loup? Ça ne m'étonne pas. Le titre même de l'émission justifie sa longévité. Ce La Tulip Petit Loup qui va. C'est là tu lui, mon petit loup, avec ses dentales, ses palatales, la 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 la, tidu, la tata, ça roule, ça tourne, ça. On court après, quoi. Et on pourrait y ajouter une devise qui a lu l'IRA. Vous avez 1000 pieds à l'étrier de quantité de gosses, de quantité de, et surtout de quantité de parents. C'est-à-dire, c'est pas rien, hein. Ça veut dire, vous les avez introduits en littérature. C'est comme ça qu'on entre en littérature.
Voilà, c'est très gentil de la part de Daniel Pénac, que l'on retrouvera aussi en fin d'émission avec différentes considérations sur le thème. Je vous présenterai mes invités au fur et à mesure. Je vais me tourner vers d'abord quelqu'un qui est un ami depuis 30 ans, c'est Patrice Wolf. Bonjour Patrice.
Bonjour à tous, bonjour Denis.
On a 20 ans, on a eu 20 ans de l'atelier Mon Petit Loup au compteur, donc quand on avait commencé cette histoire. Alors on va pas faire ni une géographie, hein, c'est une fête.
Ni
le résumé de tout ça, mais peut-être 2-3 points importants par rapport à l'atelier Mon Petit Loup.
Ben, moi, ce qui me paraît important, déjà, de rappeler simplement, on revient 30 ans en arrière, et c'était l'époque des papas poules. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de ça, mais on était vraiment dans cette logique-là. Et le livre pour enfants était d'abord et avant tout, pardon mesdames, mais un domaine réservé, quoi. Et d'un seul coup, sur une radio de service public...
Il y a deux mecs qui ont débarqué avec ça.
Il y a deux gars qui sont sortis avec des livres pour enfants, parlant des livres pour enfants pendant 5-6 minutes, quoi. Et ça, ça a été, me semble-t-il, un événement. Et c'est aussi pour ça que l'atelier Mon Petit Loup est resté une signature. Et aujourd'hui encore, on rencontre des gens dans la rue qui viennent nous voir, viennent nous dire, ah ben oui, l'atelier Mon Petit Loup, oui, quand j'étais gamine ou quand j'étais gamin, j'écoutais ça. Et ça, et c'était vraiment la joie de mes samedis matins, puis de mes dimanches matins. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, c'est vrai que, Denis, vous avez raison de rappeler que Gareto, finalement, nous a donné cette chance-là. Et c'est aussi important de le rappeler, parce que finalement, c'était quelque part un choix courageux, parce que à une heure de grande écoute, il y avait strictement rien sur les livres pour
enfants. C'était le samedi matin à 8h20, puis 8h40, avec environ 2 millions d'auditeurs.
Donc, ce qui est quand même très très important, quoi. Et là, ce qui est important de dire, c'est que c'est la radio de service public qui permet ça. Aucune autre radio se permettait ça. Et en cela, me semble-t-il, le livre pour enfants a été aussi un objet politique important. Et voilà, je crois que c'est... On commentait l'actualité à travers le livre pour enfants. Il faut pas oublier une chose, c'est que notre choix de départ, c'était pas de faire de la critique de livre pour enfants, c'était de faire une bonne émission radio.
Et puis c'est ça qu'on évoque le Eric départ. Patrice, Denis, d'où vient le titre « L'atelier Mon Petit Loup » ?
Ah, alors ça c'est très curieux. C'est un titre de pédalage. Je m'explique. Un jour, en grimpant le col de la Croix de Fer, parce qu'il fallait donc débuter à l'automne 1987 cette nouvelle émission, on n'avait pas de titre. Bon, il y en a un qui a fait. J'arrive au sommet du col de la Croix de Fer à vélo. À l'époque, c'était des machins en bakélite. Je ne sais pas si les jeunes générations ne voient pas du tout. Là, les jeunes qui sont là, bah, ça leur dit rien. Là, voilà. C'était un téléphone, c'est un truc en bakélite. Et donc, j'appelle le Patrice et je lui dis, écoute, j'ai trouvé l'atelier. Et Patrice me dit, bah écoute, Mon Petit Loup, voilà. Et donc, hop, je suis redescendu après. C'est venu comme ça. Là, donc, l'atelier Mon Petit Loup, c'est allitération et donc né comme ça.
Ça tient à rien. Hein.
Ça tient pas. Ça tient à rien
le succès.
Il y a que ça. Il y a vraiment que ça. L'autre chose rapidement, Patrice, c'est qu'à l'époque, les bouquins étaient vraiment beaucoup vendus au moment de Noël. Alors, ça continue, mais c'était énorme à cette époque-là.
C'est très important ce que vous dites. Effectivement, le livre, le beau livre, l'album, etc., était d'abord et avant tout un objet, un cadeau de Noël en réalité. Et tout le reste de l'année, on se posait la question, que devenaient les enfants finalement après Noël ? L'avantage...
les gars partaient d'hyper loin quand même.
Ouais. Non, mais l'avantage de l'émission, ça a été de rappeler toutes les semaines que les livres, c'était tous les jours, tous les soirs, tous les matins, voilà, toute la semaine.
Bon, alors avant de donner la parole à quand même nos amis autour de cette table, ce que je vous propose, c'est de faire avec l'ami Eric Oswald. Alors Eric, si vous voulez, c'est The Voice, hein, à France Inter, on l'entend tout à fait régulièrement.
On explique... Vous êtes trop beau, mon Denis.
Mais non, mais je vous en prie avec grand plaisir. Alors très souvent, on va pas mentir comment ça se passe. Très souvent, moi je file les textes que l'on peut faire avec Lucie Cosmala, je lui donne, allez, quand tu les as une demi-heure avant, c'est bien, hein.
Ah, c'est confortable, une demi-heure.
Voilà, une demi-heure avant, c'est très bien. Bah là, tu les as eues à peu près, 20 minutes avant, et ça va être parfait. Et donc, on va s'offrir un petit bout. Là, on vous fait vraiment dans la cavalerie, dans le gros classique. L'atelier n'existait pas en 1971, année de création du géant de Zeralda, donc de Tommy Ungerer, que l'on écoute, tiens.
Ces livres d'enfants, je les ai faits pour moi-même, pour le gosse en moi-même, c'est presque de façon égoïste. Ce qui m'intéressait surtout à l'époque aussi, c'était de faire sauter les tabous. Parce que je trouvais absolument inepte tous ces petits livres de petites souris adorables, qui sont si gentilles. Toutes ces histoires-là, c'est quand même pas naturel, c'est un monde complètement artificiel. Moi, j'aime les livres qui sont quand même un peu plus extrêmes, plus forts, qui fassent peur. Les enfants adorent avoir peur.
Il était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul.
Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim.
Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger des enfants à son petit déjeuner.
Chaque jour, l'ogre venait en ville et attrapait quelques enfants.
Alors, les parents cachaient les enfants dans les coffres, les tonneaux, les caves.
Plus un gamin à l'air libre. Et l'ogre devait se contenter de bouillie d'avoine, de choux tiède, de pommes de terre froides.
Oui, il était quasi vegan, hein, le géant, donc c'était ça. Alors Zéralda, elle avait 6 ans, fille de cultivateur, et elle s'en va au marché à la place de son pauvre père qui est malade. Et le géant la guette, et il se dit « Oh là là !» Et il tombe du rocher, il se blesse. Et la gamine prend le géant en pitié, le nourrit, bah, et l'ogre, il la kiffe, quoi.
« J'ai un château avec des caves pleines d'or. Je te donnerai une fortune si tu veux venir chez moi me faire la cuisine. »
Et comme notre ogre se mit à manger d'excellentes choses,
il n'avait plus envie de dévorer les enfants.
Et la gamine va triompher de son sort funeste et va se marier avec celui qui voulait le dévorer. Voilà, de belles références dans les illustrations aux œuvres de Bruegel. C'est donc... Ah oui, on l'entend. Et tout est bien quand même qui se finit bien, ce qui est quand même pas désagréable du tout. Voilà, alors je sais pas, cher Timothée de Fombelle, qui est avec nous, qui est un formidable auteur de livres de jeunesse. On va revenir peut-être sur Toby Lolness, sur Van Gogh, sur Perle aussi. Mais est-ce que vous avez été nourri par Tommy Ungerer, par quoi vous avez été nourri, vous
quand bah oui, dit... Tommy Ungerer certainement, le géant de Zéralda, mais aussi le chapeau volant, les trois brigands. En fait, je réalise qu'il a arrêté à peu près d'écrire des livres pour enfants pendant 20 ans, au moment de ma naissance. Je ne sais pas si c'est lié, mais moi, j'y vois un lien.
Il n'y a pas de hasard.
Et donc, je suis né avec, sur ma table de chevet, tous les livres de Tommy Ungerer. Et c'est vraiment un auteur, parce que c'est vraiment un écrivain, et un illustrateur incroyable. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir un colleur d'affiche qui a tapissé mon intérieur à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et c'était Tommy Ungerer. Donc, je trouve ça assez extraordinaire que vous commenciez par lui.
Alors, autour de cette table, un auteur, Timothée de Fombelle. Nous avons aussi auteur et illustratrice, c'est Malika Doré. Nous avons bien sûr Daniel Morin. Qui va faire, là, qui va peut-être aller... voir nos amis ou pas?
Quand je veux.
J'ai compris. Voilà. J'ai compris, Daniel, c'est formidable. Je me tais. Donc, Patrice Wolf, Eric Oswald, ça rigole pas. Et donc aussi Lucie Cosmala. Mais auparavant, écoutez cette voix.
Oh, mais moi, quand j'avais 10 ans, j'écoutais mon petit loup. J'étais assise sur le bord du lit, comme ça, avec les pieds qui pendent. Puis j'étais avec mon nounours et je disais, écoute, c'est Denis Chessou. C'est là, tu l'as, mon petit loup. Et j'écoutais en longues ondes. Alors, des fois, ça crachotait comme ça. C'était terrible, c'était génial. Là, je me suis dit un jour, peut-être je rencontrerai Denis Chessou. Peut-être un jour, il me tendra son micro et je pourrai lui dire que quand j'avais 10 ans, j'écoutais la Tulu, mon petit loup.
Suis-moi, là où je sais où. Suis-moi, et si je suis pas, suis-moi. Là où le Michelibou. Suis-moi, on y est ou presque. Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. Ça se peut que qu'il peut plus, peut le mieux. font quand on se plie, de rire et que la pluie, pleure elle aussi de joie, se parle, c'est si bon quand on se parle, si haut, si bas.
D'accord, on va les lire tes livres si ça peut te faire plaisir.
Bah oui, mais alors maintenant il a 30 ans. C'est, voilà, parce qu'on faisait bosser aussi la famille, c'est ça qui était terrifiant. Voilà. Et oui, donc les 30 ans de la Tulu, mon petit loup. Alors Timothée de Fombelle, moi je reviens vers vous, hein, je le rappelle, vous avez écrit vraiment de très très beaux. Dès le début, hein, en 2006, Toby Lolness, avec ce petit bonhomme qui mesurait combien ?
1,5 mm.
Ce qui n'est pas beaucoup pour un ado, hein, quand même. Hein, ouais, donc, ouais. C'était ça. Et alors, moi, j'ai envie de lire juste quelques phrases de votre dernier ouvrage, donc, qui s'appelle Neverland. On fait semblant d'être grand, et dans le meilleur des cas, je crois, on fera semblant toute sa vie. Je suis parti un matin d'hiver, en chasse de l'enfance. J'avais décidé de la capturer entière et vivante. Regarde, elle est là, tu la vois ? Je l'avais toujours sentie battre en moi. Elle ne m'avait jamais quitté, mais c'était le vol d'un papillon obscur à l'intérieur, le frôlement d'ailes invisibles, dont je ne retrouvais qu'un peu de poudre sur mes bras au réveil. Et alors, vous avez cette sensibilité à l'enfance qui est assez incroyable. Et alors, comment ça s'est passé ? Pourquoi vous avez eu envie, j'ai presque dire, d'aller sur ces territoires de l'enfance en écriture ?
Parce que j'ai senti que c'était là que mes histoires pouvaient pousser, pouvaient grandir. Parce que j'ai senti que c'était là qu'était la liberté, qu'on n'allait pas me demander « mais c'est quoi ? C'est du polar, c'est du roman à l'eau de rose, c'est du roman d'aventure, c'est... » Voilà, j'avais pas à choisir, tout est possible, c'est une sorte de domaine, de page blanche dans lequel on peut raconter ces histoires. Je vous avoue que mon premier roman, Toby Lolness, je l'ai envoyé des deux côtés de la rue. Il y a Gallimard jeunesse et il y a Gallimard adulte. J'attendais de voir qui allait se réveiller en premier. J'ai envoyé par la poste et c'est Gallimard jeunesse et j'ai eu une réponse circulaire 3 ans après, alors que mon livre était traduit dans 30 langues et chez Gallimard jeunesse, une réponse de Gallimard adulte me disant que ça ne correspondait pas à la ligne éditoriale. Etc.
C'est extraordinaire. Ça.
D'accord. Et donc il y avait pas photo et c'est pour ça que là vous parliez de Neverland qui est ma première entrée dans le livre plutôt adulte, oui, mais uniquement sur l'enfance. Ça ne parle que d'enfance, parce que j'allais pas en parler aux enfants qui s'y connaissent mieux que moi. Mais il y avait par contre peut-être, et c'est ce qu'a su faire La Tulu, mon petit loup, il y avait peut-être moyen de parler aux grands du monde de l'enfance.
Oui. Et alors justement aussi lorsque vous évoquez ce monde de l'enfance, Timothée de Fombelle, vous considérez un peu comme un pionnier américain.
Oui, enfin, c'est justement cette liberté. Tout, hein, je me souviens. Oui. Alors ça, c'est dans un livre. C'est dans La Petite Maison dans la Prairie. Alors, je connais pas la série, mais je connais les bouquins que j'ai trouvé comme d'habitude dans une chambre d'enfant. On s'arrête chez des amis et puis on lui dit bah prends la chambre de Kevin et on prend la chambre de Kevin et il y a sa bibliothèque et il y avait La Petite Maison dans la Prairie, la première édition.
Beaucoup
enfin,
mieux que la série.
Beaucoup mieux que la série. Et ça commence. Ils arrivent avec leur roulotte là dans les prairies et il y a les lapins qui viennent se frotter contre les jambes. Il y a une sorte de il y a l'ignorance du danger de l'homme qui est là et c'est ce que je sens quand j'écris. C'est quand on touche un jeune lecteur, on le touche pour toujours, on le touche en profondeur et c'est une grosse responsabilité d'ailleurs. Ça fout un peu la trouille quand on écrit comme ça, mais et moi, je suis plus touché par les livres que j'ai lus à 12 ans que par ceux que j'ai dans mon sac aujourd'hui et que je suis en train de lire et je ne sais même pas vous les citer.
Est-ce que le collectage se passe bien, mon bon Daniel? Tout va bien?
Parce formidable.
Que... formidable, on sait très bien. Alors, parce que Daniel est en train de récupérer, on va dire, des phrases, des idées pour construire donc ce conte qui va devenir totalement mythique donc à la fin de l'émission. Et donc, à vos côtés, donc une autre créatrice, on a plein de créateurs donc qui sont là, c'est Malika Doré. Bonjour Malika.
Bonjour.
Alors, ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'on avait envie de parler aussi de la toute petite enfance. Et en fait, on peut raconter évidemment des histoires, mais vraiment très très tôt aujourd'hui. Pourquoi c'est nécessaire de raconter des histoires aux enfants tout petits? Parce que alors vous faites partie, on va dire, des stars des gamins, parce que là j'ai sous les yeux. Il était trois petites souris. Alors vous êtes édité par Loulou et compagnie, vous êtes édité par Memo, vous êtes aussi édité par Didier Jeunesse. Et votre univers, Malika, il est fait de lapins, de souris aux oreilles pointues. Alors, vous avez un trait qui est épuré à l'encre noire, quelques petites touches de couleur. Alors comment on rentre, je veux, dans ce domaine de la petite enfance?
Par accident. Ouais. Non, je n'ai pas fait exprès. J'ai commencé par écrire un premier livre, que Michel Moreau a édité d'ailleurs. Et on m'a dit que c'était pour tout petit. Et donc moi, ça me convient. Hein. Je pense simplement que je dirais qu'un écrivain qui n'est pas pour tout petit, son plaisir va être à étoffer une idée qu'il a au départ, un élan qu'il a au départ. Et un écrivain pour tout petit, eh ben son plaisir va être à simplifier jusqu'à ce que ce soit accessible, y compris au tout petit. Mais moi, au départ, il n'y avait pas de volonté de me consacrer spécialement à eux. Après, ils me vont tout à fait, hein. Ça me va comme public. Oui.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'on peut les délivrer comme message?
Ben du coup, à partir du moment où on considère que c'est un public qui vaut autant et qui il est aussi estimable, aussi intéressant, aussi intéressé qu'un public adulte ou qu'un public d'enfants un peu plus grand. Du coup, moi, je m'interdis rien. Et le premier album qu'on a publié chez Didier Jeunesse, c'était Et après, qui était sur la mort d'une grand-mère. Donc,
non, mais c'est ça qui est fabuleux, Michel Moreau, parce que là, vous êtes donc la responsable des éditions, donc Didier Jeunesse. C'est-à-dire que tous les thèmes peuvent être abordés. Et racontez-nous ce fameux livre. Donc, et après, même si le thème, il n'est pas une qui était folle, mais ça veut dire que...
Oui, avec Malika, on en a abordé d'autres, des thèmes qui n'étaient pas faciles, qui n'avaient, je crois, jamais encore été abordés, comme dans Le ventre des dames.
Ouais. Qu'est-ce que c'était, celui-là? C'était la grossesse ou c'était...
Ben, la grossesse, ça, on a quand même fait des progrès, je dirais. Donc, la grossesse, il y avait déjà beaucoup de livres qui expliquaient, et c'est super que, ben voilà, les enfants naissent pas dans les choux et dans les roses.
Ah bon?
Ouais. par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'est un livre qui se lisait d'un côté, il y avait dans Le ventre des dames, parfois il y a un bébé, et de l'autre côté, parfois, il n'y a pas de bébé. Et donc, quand il n'y a pas de bébé, moi, je trouvais important, effectivement, de dire aux enfants que comment on fait les bébés, mais que parfois on fait des câlins, pas pour avoir des bébés, parfois on essaye d'avoir un bébé, on n'y arrive pas, et puis voilà, que c'est un peu plus compliqué que juste la version dans Le ventre des dames, il y a un bébé.
Patrice Wolf.
Alors moi, ce qui me paraît intéressant aussi avec vous, c'est l'illustration. Et je trouve qu'on parle beaucoup de littérature de jeunesse, mais en fait, on oublie que souvent, et notamment pour les plus jeunes, il y a l'image. Et l'image, paradoxalement, peu de gens en parlent. On raconte les histoires, souvent, on évoque les sujets, et c'est vrai que c'est bien de rappeler qu'on n'a pas que des petits Mickey et des histoires à l'eau de rose dans les livres pour enfants. Mais alors, quelle est votre relation à l'image, justement? Quel est ce langage de l'image qu'on peut rendre possible à travers un album?
Alors, au début, il était très, très modeste. Maintenant, je m'y crois complètement, mais il y a 15 ans, je dirais... Presque, j'aurais pu faire appel à un illustrateur un peu plus, qui maîtrisait un peu plus l'image, tout ça. Et comme c'était sur la mort d'une grand-mère, moi, je tenais pas à ce que l'image vienne manger le texte.
D'accord.
Qui, dans la petite enfance, on a mis du temps avant de proposer des textes un peu profonds, j'ai envie de dire. Et donc, mon rapport à l'image, en fait, d'album en album, il est devenu agréable.
Ouais.
Mais il s'est enrichi au fur et à mesure.
D'accord.
Alors, il n'y a pas que la mort des grands-mères, hein, je vous rassure, loin d'là. Quand même. Là, on, bah, attendez, là, je vois, il était trois petites souris, hein, donc qui ne veulent pas aller au lit. Donc c'est...
Moi, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai commencé par.
Par le dur, des... quoi. Vous avez commencé ouais, par
voilà.
le.
Voilà, non, non,
ouais, par la façade. Que... Ouais, non, ça va bien. Tout en haut du toboggan, ça va bien aussi. Hein, donc, l'histoire de...
Voilà, j'ai mis 15 ans avant de pouvoir écrire un livre qui raconte des animaux qui descendent d'un toboggan.
C'est ça. Et la fin de l'histoire, parce que là, vous voyez, il y a du teasing. Ouais, donc, hein, c'est un éléphanto.
Donc, c'est un éléphanto oui. qui est tout en haut du toboggan. Donc, c'est un livre qui est cartonné, comme il était trois petites souris, et qui va plus être sur oui, la farce
parce qu'il le
mange, ou la comédie.
Cartonné parce qu'ils peuvent le bouffer, les enfants.
Et donc, ça, c'est la collection pour tout petit à l'école des loisirs, Loulou ouais. et compagnie. Et donc, là, c'est un livre qui va s'ouvrir en hauteur, tout en haut
l'histoire.
Du toboggan. Mmh. On a l'éléphanto. Voilà. Qui dit c'est trop haut, ensuite il y a la fourmi qui dit non, c'est parti, arrive au fur et à mesure des pages tous les animaux, et en bas qui les attend, les parents.
Et les parents sont là, voilà. En fait, tous les thèmes peuvent être abordés, hein, Patrice, ça on l'a vu pendant des années. Des thèmes durs, vous le disiez aussi, c'est aussi un objet politique, c'est-à-dire que des thèmes de société, on se souvient de « non, je ne veux pas être top modèle », par exemple. Évidemment, il y a toujours la vie, l'amour, la mort, la peur de l'abandon, ça, tout ça. Donc toutes les limites aussi que les gamins vont rechercher, on retrouve ça. Et alors, ce qui est très intéressant, tenez, on va écouter cette petite virgule de Monsieur Vincent Malone.
Oui, ben, c'est l'histoire d'une princesse. Elle allait dormir dans un château. Et pour être sûr que ça soit bien une princesse, le propriétaire du château, il avait mis plein de matelas. Et en dessous du matelas le plus bas, il avait glissé une pomme de terre.
Papa,
oui.
T'es sûr que c'est pas un petit pois plutôt ?
Non, les petits pois, ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de petits pois.
Andersen.
Voilà, bah oui, c'est ça. Alors, je vous rappelle qu'évidemment, c'est une émission exceptionnelle hein, sur France Inter, parce que c'est pas l'horaire habituel de l'Atelier Mon Petit Loup, hein, qui est donc tous les dimanches à 19h54 après les petits bateaux. Donc,
oui, normalement, voilà, c'est ma tranche.
C'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Je voulais bien, parce que je voyais...
Ouais, donc, je n'ai pas prêté du tout, on m'a obligé.
Non, c'est bien compris, effectivement. Et pourtant, c'est le même qui a une gamine de 3 ans. Bon, tant pis. Voilà, donc émission exceptionnelle. Voilà, on rendra donc les clés du studio, de toute façon, à Nagui et à Daniel Morin donc tout à l'heure et le collectage commence bien Daniel.
Oh là là, alors c'est impressionnant, il y a des gens infréquentables dans le public.
Bon, c'est parfait.
Ne vous inquiétez pas, je donnerai les noms bien sûr.
Bah, évidemment, donc à la fin Michel Moreau, donc pour les éditions Didier Jeunesse, puisque vous êtes la directrice. C'est vrai que, bon là on a entendu une petite facétie évidemment de Vincent Malone que les enfants aiment beaucoup aussi. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes, si vous êtes un peu la Madame Comte et la Madame Contine. Comment vous êtes tombée, vous, dans cette histoire-là ? Parce que c'est très original. Après, on vous a beaucoup copié. Vous étiez la première donc, à faire des comptines et à faire des livres disques comptines.
Alors, je ne sais pas si j'étais la première, mais je suis tombée dans... j'ai eu beaucoup de chance qu'on me propose ce projet quand j'étais éditrice scolaire. Et un projet autour des comptines qui était dédié à l'apprentissage de la langue française. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai baigné dans les comptines toute mon enfance. Ça, c'est vraiment ça qui m'a nourrie, qui m'a ouvert vers la littérature, vers la comédie, vers la tragédie, vers toutes sortes de choses. Et je nage dans les comptines comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment un matériau qui suscite à chaque fois que je vous écoute, enfin tout ça quand je vous ai écouté, là tu lus mon petit loup, ça sonne comme une comptine. C'est comme une poule sur un mur, c'est ce jeu des sonorités, des allitérations, cette proximité dans les voyelles entre le U et le OU, ça c'est propre à la langue française, on retrouve ça dans très peu d'autres langues. Et les comptines sont des petits trésors comme ça qui recueillent la musique d'une langue. Et ça existe dans toutes les langues. Mmh. On a la poule
sur un mur.
Un
creuset, bien sûr. Oui.
C'est un creuset. Donc c'est arrivé comme ça, j'ai eu beaucoup de chance. Et que j'ai pu développer à partir de ce matériau destiné à l'école, eh ben, j'ai développé des collection de recueils avec des cassettes à l'époque. Oui. C'était il y a presque 30 ans. aussi, et à l'époque c'était des cassettes. Et c'était génial parce que quand on était en studio d'enregistrement avec des enfants et leur maîtresse, et ben là c'était avec les ciseaux et la colle. Mmh. Et donc on n'avait pas le droit de se tromper quand on enregistrait une comptine.
Ah oui.
Ouais, c'était quelque chose. Et donc on faisait chut, chut, et puis il y en avait toujours un qui voulait faire une blague et qui faisait rire tout le monde. Et par moments, eh bien, on a réussi à garder ça, cette spontanéité. Voilà, donc j'ai vraiment appris mon métier
grâce
ça.
À bateau sur l'eau, la rivière, la rivière, le bateau. On pourrait le faire en rock, hein, quasiment, Eric Oswald, mais enfin là, ça va être...
Alors, les comptines, c'est ça, ce sont des petites formules, des petites formulettes chantées qui accompagnent les jeux des enfants. Et soit les enfants les chantent eux-mêmes, soit on les chante aux enfants. Et par exemple, bateau sur l'eau, moi, je chantais avec ma petite sœur. On se mettait, enfin, je sais pas quel âge on avait, 3, 4, 5 ans, en face à face, on se tenait par les mains, les pieds contre les pieds de l'autre, et puis ça y allait, et puis à la fin, plouf, c'était à qui fraîche à virer l'autre, et puis c'était grand éclat de rire. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que bateau sur l'eau, ça se chante doucement comme vous l'avez fait là, sur les genoux avec un bébé.
Je l'ai un peu massacré moi, bébé. Ah,
j'oserais pas dire ça. Je vais en massacrer une autre. Parce que les comptines, c'est aussi ça évolue avec l'âge de l'enfant. Oui. C'est la petite enfance, mais c'est aussi l'enfant qui grandit, et c'est les plouf plouf. Trois petits cochons pendus au plafond, tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Tirez-lui plus fort, il pondra de l'or. De l'or ou de l'argent? Combien en voulez-vous, madame la tour Eiffel? Je reprends, quand je chante ça, exactement l'intonation de mes filles. Je m'en rends compte parce que c'est ça qui m'a marqué. Ce que j'adore dans les comptines, c'est qu'il y a toujours des petites suites. Les trois petits cochons, tout le monde les connaît. Mais après cette histoire de tour Eiffel... D'où ce que ça vient, on n'en sait rien. C'est absolument merveilleux de ne pas savoir, de savoir que ça vient de très loin, que ça a été transmis. À mon époque, quand j'étais petite fille, ça se transmettait dans les cours de récré. Spontanément, je dirais, c'était comme le jeu de billes qui revenait à un moment de l'année, on ne savait pas pourquoi. Et puis, ben, y avait telle comptine qui accompagnait la petite hirondelle. Il y en a énormément, mais ça, vous allez devoir m'arrêter.
Rappelez-moi, Michel Moreau, je ne sais plus si vous avez 6 ans et demi ou 7 ans et demi. C'est votre âge. Timothée de Fombelle, quand on était dans une famille nombreuse comme la vôtre, il y avait des comptines ou est-ce qu'il y avait des contes? Comment on se transmettait, on va dire, peut-être l'esprit d'enfance chez vous?
En fait, ça passait plutôt par ce qu'on appelait les sketchs. Daniel Morin, le sketcheur présent ici.
Ne lui dites pas ça parce que là,
sketchiste. C'était ce qu'on appelait des sketchs, c'est-à-dire des petites pièces de théâtre bricolées. Mais c'est vrai que les comptines, c'est vrai que c'est la cour d'école. C'est en tapant dans les mains, avec en plus avec le corps quand même aussi, le corps qui est en jeu. Vous parliez des pieds contre pieds, mais ça peut être en tapant dans les mains de manière savante ou avec l'élastique. Je me demande s'il n'y a pas aussi des choses avec l'élastique,
avec la corde à sauter,
ou la corde à sauter, avec ça c'est vrai que ça, je pense que c'est les premiers tempi qu'on a dans l'oreille, le rythme de la langue, c'est lié, mais ça n'est pas 100% de la poésie de l'enfance pour moi aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à résumer la poésie de l'écriture pour enfants simplement aux sonorités, elles sont là, mais ce qui est impressionnant, c'est comme à un moment ça s'enrichit, à un moment, mais dès le début, à vrai dire, ça s'enrichit de quelque chose qui est plus tissé que simplement des échos qui reviennent. Moi,
mais il y a quand même des formules absolument incroyables dans le bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau.
Oui, oui. C'est... La rivière.
Et ouais. Voilà. Et il y a des inventions.
C'est parce que les rivières sont pas au bord de l'eau.
Elles le sont à la fin, quand même.
Non, mais ce que je trouve génial, c'est l'abstraction qu'il y a dans tout ça. C'est-à-dire que les mômes sont faits pour l'abstraction.
L'absurde.
Oui. Hein, c'est voilà. Et alors dans cette émission, il y a aussi quand même la meilleure partie, il faut quand même le dire, de la tue du mon petit loup, c'est ça.
Ça a toujours été le cas. Hein.
Ça a toujours été le cas. Alors là, évidemment, nos amis qui nous écoutent, mais de quoi, qu'est-ce que c'est, etc. Eh ben, vous allez comprendre.
Et c'est la moulinette.
Et c'est la moulinette parce qu'elle n'est pas numérisée, celle-là. Et donc, ça va être le lancement avec vous, Eric, donc, du deuxième morceau, si j'ose dire, l'histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit son museau de terre pour voir si le soleil avait disparu. Et floc !
Mais c'est dégoûtant ! Qui a osé faire sur ma tête ?
Oh, personne ne répondit. Alors, elle mène son enquête.
Hé, le cheval, c'est toi ? Mais non, voyons, moi je fais comme ça.
Et pouf, 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 il bombarde l'herbe. Ah ouais, drôlement impressionné la taupe, hein, par les 5 gros crottins. Bon, rien à voir avec ce qu'elle a sur la tête.
Oh là, le lièvre, c'est toi qui m'as fait sur la tête ? Bon non, voyons, moi je fais comme ça.
Et ratata ratata, 50 petits haricots tout ronds qui pétaradent aux oreilles de la petite taupe. Alors elle va questionner la chèvre, elle va questionner la vache avec une bouse qui s'écrase mollement à côté.
Oh, eh ben une chance qu'elle ne soit pas tombée sur la tête.
On passe aux cochons, aux mouches qui font bonbons.
Mais cette fois, la petite taupe tenait le gros malpropre. Jean-Henri, le chien du boucher.
Eh oui, alors sa vengeance allait être terrible et justice sera faite. Alors évidemment, au-delà de la force du graphisme au crayon, cette histoire increvable de 1989 démystifie cette fonction vitale chez l'enfant qui fera le lien avec les toilettes, car on ne fait pas cela n'importe où. La preuve, répétition efficace, exactitude du dessin, et même les parents BCBG apprécieront. Et Prout. Voilà, donc aux éditions Milan, avec quand même Wolferbruch, qui était. On cite jamais l'auteur, on dit toujours Wolferbruch à ses illustrations, c'était Werner Horswald. Donc c'est à partir de 2-3 ans. Donc c'est ça.
Excellent patronyme.
Mais oui, oui, oui. Bon, ça c'est un grand classique. Je ne sais pas, moi, Lucie Cosmala, si vous avez été nourrie, vous, directement par la petite taupe ou pas.
J'aurais adoré, mais je l'ai découvert à 20 ans, ce qui était aussi une expérience intéressante pour le coup.
C'est bien aussi, oui, parce que là, on va quand même. Vous, on va pouvoir. Je sais que vous avez un tout petit peu plus, mais pas tellement plus. De 6 ans et demi. Vous avez quel âge, Lucie ?
J'ai 26 ans et demi.
26 ans et demi. Bon, et alors moi, je tenais quand même à remercier les différentes personnes qui ont travaillé sur la Tulu Montilou, donc avant vous, à savoir Véronique Corgibet, à savoir Lucette Savier, Chloé Marot, et donc vous-même, parce que vous avez intégré donc cette merveilleuse équipe il y a très peu de temps. Et ce qui est très intéressant, donc ça veut dire qu'on choisit les bouquins ensemble, on les écrit, on se les renvoie, ça, mais ça, oui, non, mais ça, t'y est pas du tout, enfin bon, les trucs habituels. Comment ça s'est passé cette entrée en livre de jeunesse pour vous ? Parce que maintenant vous êtes là-dedans, quoi.
C'est vrai, mais je dirais que ça fait 5 ans que je suis vraiment dedans et c'était pas quelque chose. Je viens pas d'une famille où on avait une bibliothèque remplie de livres pour enfants. J'avais peut-être Martine petite maman, Caroline qui part en expédition en Antarctique.
Ah ouais, il y avait du lourd là quand même. C'était Martine.
Ah, c'était un style. J'avais pas mal de contes, mais finalement j'avais pas beaucoup d'albums pour enfants chez moi. J'ai un petit peu lu quand même quand j'étais préado. Je suis bien entendu tombée dans la marmite Harry Potter assez tôt, quand j'avais 9 ans. Donc c'est un peu le livre de ma vie comme beaucoup. J'ai lu Malika Ferjouk, j'ai lu Jacqueline Wilson. Mais finalement, j'avais pas une culture très étendue en littérature jeunesse et c'est venu quand j'étais en troisième année de licence de lettres modernes. Donc entre-temps, il y a eu le bac littéraire, il y a eu la prépa littéraire pour me crédibiliser auprès des professionnels parce que pendant longtemps, j'ai voulu travailler dans la presse jeunesse, c'était mon truc. Mm-hmm. Parce que j'ai pas été nourrie par des livres, par contre, j'ai été beaucoup nourrie par la presse, le journal de Mickey, Minimag, j'aime lire, j'en passe. Ça pour le coup, j'étais grande lectrice. Et en troisième année de licence de lettres modernes, je savais qu'il y avait une option littérature jeunesse. Et ça a été la révélation. La révélation. Avec Loulou de Grégoire Solotareff, je m'en souviens.
Bien sûr. Ouais.
Donc mon professeur a expliqué en fait Loulou.
Mais alors quand même grosse claque, parce que vous avez dit, c'est quand même un sacré truc d'analyser un album de jeunesse.
Exactement,
quoi.
En fait. Mon professeur a pris Loulou, elle a dit, voilà la structure, voilà pourquoi il a mis telle couleur en opposition à telle couleur, voilà le texte, voilà la signification de cet album. Et moi je me suis retrouvée avec tout mon snobisme de personne qui sort d'études supérieures en littérature, à dire, waouh, en fait, c'est aussi riche que la littérature. Et j'ai trouvé ça encore plus génial de me dire que bah, ces petits animaux qui parlent, ils ont beaucoup plus à raconter que seulement leur petite péripétie quotidienne.
Et vous avez vraiment votre place dans ce Latulu Montilou. Merci. On va poursuivre donc ce voyage pendant que Daniel Morin est en train de phosphorer vitesse grand V. Voici notre deuxième chanson dans cette émission, hein, on le disait, donc exceptionnelle. Latulu Montilou, vous le savez, hein, ce sera demain le dimanche à 19h54. Oui.
Denis Chessou.
Ouais, c'est pas juste. C'est toujours les parents qui choisissent les livres pour enfants.
Sur France Inter.
Si moi et Méo depuis Nani Nanan.
dans la gueule. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour toi. Oh non non, les mots qu'à songer on peut pas attendre. Tout corps en moins qu'à mon desserré. Les mots qu'à ouais aussi ou moins qu'attendre. Tout coûte ça.
Taka mwa miti, wando vi mo yema. Niso di mule matel, wando vi mo mama. Di kana voti loten, wando bambe mo yema. Yende lo, na yende tango, nde go, balagi nde tonto. Pinde to ya yende.
Oh, mama, mama. La manka songe, on pe pa attendre.
Mama.
Tout corps en moins qu'à m'en desserrer. L'amour qu'à ouer, c'est au moins qu'à temps. Tout doumi, c'est ça.
C'est exactement ça, quand les parents ne dorment pas, eh bien, les enfants allaient leur raconter des histoires. C'était Toto Bonaloqua, ma mama, donc hommage à la mère, Patrice Wolf.
Mais oui, j'étais très intéressé moi, par ce que disait Lucie, et c'était, me semble-t-il, très important. Denis, on s'est souvent dit qu'il a lu Lyra,
oui.
Mais Lucie montre clairement qu'il n'a pas lu Lyra quand même, quoi. Et ça, c'est quand même très important de le dire aux parents, parce que beaucoup de parents s'inquiètent, oui, mon fils ne lit pas, etc. Je crois que rien n'est irrémédiable. On peut arriver un moment ou un autre à la lecture. Je suis bien placé, j'ai commencé à lire à 14-15 ans, donc voilà.
Oui, et puis c'était dans la vie du rail en plus, c'était ça. Non mais c'est très bien, à côté de ça c'est très bien. Non, je dis ça parce qu'il a fait des chroniques formidables, on s'est connus comme ça à l'époque où vous écriviez aussi des chroniques pour enfants et c'était pas gagné. Et d'ailleurs c'est un bel exemple aussi pour Daniel Morin, parce que petit, c'était pas gagné non plus.
Voilà.
Et
là, non, ça c'est toujours pas gagné d'ailleurs.
C'est ça.
Alors on en est où Daniel?
On en est où
alors,
Daniel?
Ça y est, on a fait. On a fait des comptes. Donc, oui. J'ai été voir des gens absolument charmants. Alors, par exemple, il y a Sarah qui veut du mystère. Il y a Élise qui veut qu'on parle de Marine ou de Wendy. Il y a Nino qui veut qu'on évoque les cornichons. Il y a Yasmine qui veut qu'on parle d'amour. Clara qui veut qu'on parle de dragon. Jean-Marc veut rencontrer Tintin. Isabelle veut voir Super Sourisette. Romain nous a demandé un loup gentil. Quant à Sophie, je gardais le meilleur pour la fin. Attention, hein. Elle est très très perchée. Elle veut qu'on parle d'écureuils qui sèment des graines, qui se transforment en arbres, avec elle sur une branche qui est en train de lire un livre qui a été semé par un écureuil.
Et la marque Marc Delherbe, c'était.
Je ne sais pas, elle m'en a donné, je vais la faire analyser. Ouais.
Je comprends très très bien. Alors on l'a écouté au début, on l'écoutait maintenant aussi. Donc Daniel Pennat, qui bien sûr est rentré en littérature jeunesse, il nous raconte comment il est rentré en littérature jeunesse. Daniel Pennat.
Bonjour Denis. Pour être tout à fait honnête,
j'ai commencé par faire un essai sur le service militaire après, pendant que je faisais le service d'ailleurs, pour me désennuyer un peu. Et ensuite, des livres de politique fiction. C'est-à-dire que j'ai d'abord manipulé le concept et l'ironie. Et par ailleurs, je suis d'une culture où le roman avait mauvaise réputation. Un univers structuraliste où il fallait pratiquement se cacher au cabinet pour lire un roman. Et puis j'en ai eu assez. Au terme d'un exil de 2 ans au Brésil, où je suis allé voir à quoi la France ressemblait vue de loin, j'en ai eu assez et je me suis dit que je voulais, au fond, raconter des histoires. Bon, aux adultes, certes. Et pour structurer un récit en narration, je me suis dit que la meilleure école, finalement, c'était les enfants. Parce que les enfants ne supportent pas, ils n'ont pas encore assez de lettres pour supporter l'attente en littérature. Il faut donc aller vite, il faut être rythmé. Et j'ai fait mes tout premiers livres de littérature pour les enfants, c'est-à-dire Cabo Caboche. C'était une leçon que je me donnais à moi-même d'écriture d'un roman. Sauf que ce roman était pour les enfants. Les romans dits pour les enfants ne sont pas thématiquement différents des romans écrits pour les prétendus adultes. Ça veut dire que les thèmes sont rigoureusement les mêmes. La naissance, la mort, la vie, l'amour, l'argent, les espoirs déçus, etc., etc. Ce qui change, c'est évidemment le ton, le rythme, l'écriture. On se surprend à faire évidemment des phrases avec infiniment moins de propositions relatives et conjonctives, avec infiniment moins d'adverbes et d'adjectifs, et des phrases davantage rythmées, donc beaucoup plus de propositions indépendantes, et avec une obligation corollaire qui est que les substantifs soient plus précis, que les images soient plus immédiates, que les métaphores soient plus parlantes. Il y a beaucoup moins de connotation, si vous voulez. On renonce à la connotation, ce qui, pour un intellectuel français, c'est comme renoncer à ses 2 béquilles.
Alors, Daniel Pennat, parmi, on va dire, les personnages qui vous ont nourri quand vous étiez gamin.
Les personnages que j'ai lus, étant enfant, que j'ai le plus aimé, ce sont des personnages dont le destin était profondément désespérant. La plus célèbre d'entre tous, c'est la chèvre de M. Seguin.
Oh! Qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin. Un amour de petite chèvre.
Ça se termine extrêmement mal, mais elle s'est battue jusqu'au bout. Et j'avais pour cette chèvre une adoration et un respect immense. L'autre chose aussi, c'était l'affreux petit canard d'Andersen.
Mon Dieu, le gros petit.
Je m'identifie à lui. Du fait que je me sentais différent, et voilà. Pour cause, puisque mes frères réussissaient à l'école et moi pas, etc. Mais mes parents étaient gentils avec moi, ils ne me rejetaient pas. Mais je faisais quand même leur désespoir et ça se voyait. Donc voilà, les héros de mon enfance, c'était plutôt des personnages qui doutaient de leur identité, quoi, qui se cherchaient, ou tragiques comme la chèvre de M. Seguin.
Ce qui est formidable aussi, c'est que les gamins, on va dire quand ils ont 5 ans, 6 ans, vous n'avez pas écrit pour eux directement, mais c'est quasiment les rois de la métaphysique. Quoi. C'est-à-dire que l'abstraction, tout ça, ça fonctionne.
Ah oui, oui. Avec l'apprentissage du langage, il touche immédiatement à la métaphysique. Il fait un usage spontanément métaphysique de la langue. Et il y a aussi une autre raison sur la métaphysique des petits-enfants, c'est que les petits-enfants vivent le présent comme un présent d'éternité. C'est-à-dire, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Si vous dites à un petit-enfant qui est en train de jouer, « Viens manger, Denis », et qu'il vous dit « Oui, oui, j'arrive », et qu'il n'arrive pas, ce n'est pas parce qu'il est désobéissant, c'est parce que pour lui, l'acte dans lequel il est engagé se déroule dans une sorte d'éternité.
Daniel Pénac, donc au micro de France Inter pour cette émission, on va dire exceptionnelle, parce qu'elle n'a eu qu'une fois, voilà, de la Tulu, mon petit loup. Petite réaction peut-être, Timothée de Fombel.
Ben je signe, je crois que tous ici, on signe en bas de la page de tout ce qu'a dit notre grand collègue, notre illustre collègue Pénac. Ouais. Parce que c'est ça, effectivement, cette littérature jeunesse, elle tend simplement les fils de la littérature. Elle tend un peu plus la nécessité, l'urgence, le fait de se dire que ça n'est pas un auditoire captif, qu'on doit le garder avec nous, ce qui est la moindre des politesses, et la clarté de l'écriture, qui pour moi est la politesse suprême, et qui est la définition de la littérature. Et voilà, moi je suis tellement heureux quand j'entends quelqu'un parler comme ça de ce que je suis censé faire tous les matins en me réveillant pour raconter des histoires.
Alors, il y a des choses exceptionnelles, il faut bien le dire. On a une école française dans le livre de jeunesse qui est vraiment merveilleuse. Elle est reconnue absolument donc mondialement. D'ailleurs, vous pourrez voir tout cela au salon du livre de jeunesse de Montreuil, qui aura donc lieu la semaine prochaine. Vous avez parlé de clarté de l'écriture. On a un maître qui est donc Daniel Morin, qui est avec nous. Cher Daniel, parce que vous
avez... cette obscure clarté, comme
c'est
dirait.
Ça, cette obscure clarté.
C'est totalement moi.
Du désir, allez hop.
Les amis, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un roi et une reine, le roi Emmanuel et la reine Brigitte. Le roi Emmanuel décida d'aller se promener dans son jardin. Et son jardin, au fur et à mesure de son avancée, se transforma en forêt, de plus en plus sombre, de plus en plus noire. La reine Brigitte, elle, était restée au château. Elle préférait la tendresse et l'amour aux balades en forêt qui se transformaient en forêt noire. Le roi Emmanuel arriva près de la rivière, où il croisa Super Souricette, qui mangeait des cornichons avec Tintin. Tout le monde adorait les cornichons au royaume d'Emmanuel et de Brigitte. Mais la méchante fée, la sorcière marine, avait empoisonné un cornichon, un peu comme dans Blanche-Neige. Elle donna ce cornichon empoisonné au cannabis à la reine Brigitte, qui, illico après l'avoir goûté, ne s'endormit pas, mais devient complètement stone. Elle vit partout des écureuils qui semaient des graines qui se transformaient en arbres. Elle finit par monter sur une des branches, s'assit dessus et fit semblant de lire. Pendant ce temps-là, le roi Emmanuel rencontra un très vilain dragon, un dragon hurleur qu'on appelait Jean-Luc et qui voulait le dévorer. Pendant ce temps-là, heureusement qu'il passait par là, le chevalier Chessou était sur son vélo. Il roula sur la queue du dragon Jean-Luc, qui cria, et qui croisa la route d'un gentil loup. Mais il était tellement méchant et gonflant, le dragon, que le gentil loup décida d'arrêter d'être gentil, et il bouffa Jean-Luc. Une fois rentré, le roi Emmanuel retrouva la reine Brigitte, qui allait beaucoup mieux. Ils se retirèrent dans leur château, le château SCI, pour échapper à l'impôt sur la fortune, et ils eurent beaucoup d'enfants.
Grand merci. Voilà, donc essayez de raconter ça à vos enfants pour les endormir le soir. Mon avis, ça peut marcher. Un grand merci à tous. Merci Lucie Cosmalam, merci à vous Timothée de Fombel, merci Malik Adoré, merci beaucoup cher Daniel Morin.
Très aussi. Plaisant de venir.
C'est vraiment très très partagé. Merci Michel Moreau, merci Patrice Wolf.
Bon anniversaire.
Et Eric Oswald. Ben oui, bon anniversaire.
Et on rappellera aux auditeurs qui viendraient de nous rejoindre que c'était un latulu exceptionnel pour les 30 ans de l'émission.
Et comme je vous le disais, soyez tranquille, il n'y aura pas 60 ans d'émission, donc tout va bien.
Ça
voilà.
Dépend, Denis, ça dépend.
Mais j'avais raison. Merci à Camille Blanès, voilà, qui était aussi avec nous, Xavier Pestugia, Jean-Baptiste Audibert, donc, qui a soigné et choisi donc, les disques. Dans quelques instants, eh bien, ce sera Molière. Oui, ça ne peut pas faire de mal, avec les traits de Guillaume Gallienne. Donc ça, c'est l'émission, bien sûr, qui va suivre. On se retrouve avec grand plaisir. Ce sera donc là, non pas la semaine prochaine, ce sera carrément demain.
Mais demain,
oui, non,
déjà,
ça c'est fait. Oui, c'est déjà.
Reste
demain.
Là.
Oui, je reste là, mais on est un peu troublé. Merci.
C'est joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
La Tulu, mon petit loup.
Oui.
Joyeux anniversaire.
Et merci à tous.